RMC, l'After Tour.
Christophe Sessieux.
Salut à tous, bienvenue à Courchevel, sur les hauteurs de Courchevel, à l'Altiport, là où s'est déroulée tout à l'heure l'arrivée de cette 17e étape du Tour de France, l'étape reine de ce Tour avec ce terrible col de la Lauze dont on va reparler. Le Tour, vous le savez, était déjà presque joué hier soir au terme du contre-la-montre, au terme de la magnifique prestation de Jonas Vingegaard. Il est ce soir plié à moins d'une chute, toujours possible. Jonas Vingegaard devrait s'imposer dimanche prochain sur les Champs-Élysées pour la deuxième année consécutive. Cette fois-ci, Tadej Pogacar a craqué complètement dans les pentes du col de la Lauze, où c'est donc un Autrichien d'une équipe française, AG2R Citroën, un Autrichien nommé Félix Gall, qui s'impose dans l'étape reine.
Précédemment dans l'intégral Tour sur RMC.
La 17e étape du Tour de France, l'heure de vérité approche. Nous sommes à moins de 11 km désormais du sommet de ce col de la Lauze.
On va rentrer dans les pentes maintenant les plus difficiles. Et un garçon fait un gros effort à l'avancée, Ben O'Connor, pour son coéquipier Félix Gall. À 2 minutes 25, on retrouve le groupe maillot jaune avec Vingegaard, avec Tadej Pogacar et peut-être la grande bagarre à venir dans le col de la Lauze. Attention, Pogacar est en dernière position du groupe maillot jaune. Oh, Tadej Pogacar en difficulté. Tadej Pogacar en difficulté dans ce col de la Lauze, alors qu'on n'est pas du tout dans les pentes les plus difficiles du col de la Lauze. Tadej Pogacar est en train de lâcher dans la tête.
Il n'y a plus Tadej Pogacar, il est en train de perdre définitivement ce Tour de France.
C'est ce qui accélère évidemment, puisqu'on se retourne du côté du bras droit de Vingegaard et on voit qu'il n'est plus là, Tadej Pogacar.
C'est parti, tout seul
Vingegaard désormais dans le col de la Lauze. Il n'y a plus personne avec lui. Pogacar est beaucoup plus loin
derrière Vingegaard déjà pour Tadej Pogacar. Ça va faire très très cher à la fin.
Vingegaard est arrêté, c'est encore la panique sur la route du Tour. Vingegaard est bloqué par les voitures, mais que se passe-t-il? On est encore dans un tournant, c'est incroyable ce qui se passe pour la deuxième fois sur la route du Tour.
Les motos, on en parlera tout à l'heure. On est à 7 km 300 de l'arrivée. Le Tour de France est en train de se jouer. Pogacar est en train de craquer. Vingegaard va peut-être aller chercher une victoire.
Ça y est, il aura été le plus fort. Félix Gall, l'Autrichien, l'emporte à Courchevel. Simon Yates va aller chercher la deuxième place.
Pogacar est à l'agonie. Pogacar a connu la plus grande défaillance de sa vie aujourd'hui sur les pentes du col de la Lauze.
Il serre les dents, il a le maillot ouvert, il est dans ses plus mauvais jours, Tadej Pogacar. Ça fait déjà 5 minutes qu'il est passé Vingegaard, et lui, il va prendre un coup sur la tête terrible. Ça va être aujourd'hui sans doute une des plus grosses claques de sa carrière. Pogacar qui passe la ligne à l'instant, 5 minutes 35 après Vingegaard. Aujourd'hui, on peut le dire, Jonas Vingegaard a gagné le Tour de France.
RMC Intégral Tour.
Alors on reviendra dans quelques minutes sur la magnifique victoire de Félix Gall, cet Autrichien qu'on a découvert un peu sur le Tour de France. Mais tout d'abord, le fait du jour, c'est évidemment la terrible défaillance de Tadej Pogacar, qui ce soir a perdu le Tour. Il l'avait déjà à moitié perdu hier. Poggi arrivé plus de 5 minutes après Vingegaard. Un Poggi qui cette fois a définitivement rangé son sourire. Élément d'explication sur cette défaillance dans la bouche du champion slovène.
Je suis mort, j'ai essayé de monter autant que possible, mais mes jambes ne fonctionnaient plus. Si j'avais pas eu du soutien, je pense que j'aurais perdu le podium aujourd'hui. J'ai continué à me battre avec Marc jusqu'à la fin. Je suis reconnaissant à toute mon équipe et mes fans.
Voilà, un peu plus tard, il expliquait peut-être les raisons. Donc c'est dommage d'avoir coupé aussi court, parce que franchement, son explication était intéressante. Il raconte sa chute. Il a été victime d'une chute aujourd'hui dans la montée. Il raconte aussi qu'il a des problèmes d'estomac, qu'il a connu des problèmes d'estomac. Cyril, Jérôme, Pierre-Yves, excusez-moi, je vous ai pas dit bonsoir, mais on est ensemble depuis le début de l'après-midi. Comment
bonsoir,
ça va, les garçons? Ça va, mon Cyril?
Oui, bonsoir mon Christophe.
Bon, alors, vous n'avez pas entendu les explications de Poggi. La chute, l'estomac ou la tête? Ou peut-être un peu des trois? Comment vous expliquez cette défaillance terrible? Plus de 5 minutes.
Un peu détroit, je pense. Déjà, il n'y a aucune chute qui est anodine, on le dit à chaque fois. Donc même si ça paraissait pas très grave, déjà l'étape partait mal pour lui. Il a dit lui-même qu'il avait plus rien dans les jambes au pied du col de la Lauze. Est-ce que c'était une fringale? Est-ce que c'était autre chose? Ou les problèmes d'estomac, il a pas pu se nourrir comme il voulait.
Voilà, en fait, il mangeait, ça arrivait dans son estomac, mais ça arrivait pas dans les jambes, c'est ce qu'il a expliqué.
Ça c'est quand on fait un début de fringale, c'est ça. Après, c'est un un tout. Et puis dans la tête, de toute façon, il est arrivé au départ ce matin. Il savait que le tour était déjà plus ou moins perdu. Donc c'est difficile de se remobiliser, même si Pogacar, c'est un attaquant, on l'a dit avant le départ. À un moment, dans la tête, ça lâche aussi. Donc aujourd'hui, il y a un peu des trois explications, je pense.
Ouais. Cyril, tu le disais depuis hier soir, tu nous en parlais hier soir, tu nous alertais là-dessus. Tu disais, mais comment va-t-il faire demain? Parce que là, il sait qu'il a perdu le tour. Et effectivement, quand la tête débranche, eh bien, on est moins attentif. Il était victime d'une chute, on a des problèmes qui réapparaissent. Mais c'est surtout la tête qui a craqué aujourd'hui.
La chute, elle n'est pas anodine, elle est liée à l'étape d'hier. Hein. Une chute n'est jamais anodine, surtout si la chute elle-même est anodine, puisque bon, il a rampé un peu le genou, etc.
En fait, il touche juste pour préciser que
s'il est maillot jaune au départ de l'étape, quand vous lui parlez de son petit, de sa petite gamelle, il éclate de rire. Bon, il a gratté un petit peu le nombre de coureurs qui tombent et ça les empêche pas d'aller gagner derrière. S'il est maillot jaune aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas Vingegaard qui le met KO hier, déjà, à mon avis, il tombe pas. Je vais beaucoup plus loin dans le psy, mais à mon avis, il tombe pas. La chute devient quelque part, je vais presque dire, normale, logique. Bon, il a rien, il a pas de pète, il a pas tapé, il est râpé. Le nombre de coureurs râpés qui finissent les courses, que ce soit chez les amateurs, les cadets, les minimes, c'est tous les dimanches. Bon.
Après, le genou est bien touché, il y a du sang quand même.
Le genou est bien touché, arrêtez. C'est quoi un genou bien touché?
Arrêtons. Ça peut être gonflé à l'intérieur, comme disait Michel Blanc.
D'accord. Bon, t'as raison. Ok. Je te parle pas de ça, moi. Hein. Bon. Ensuite, il te dit quoi? J'ai des problèmes d'estomac. Vous savez à quoi sont liés les problèmes d'estomac en règle générale? Ils sont liés au psy.
Au stress.
Bah oui.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a un moment. On peut trouver tous les alibis que l'on veut. J'ai mal à l'estomac. Nombre de mecs qui ont mal.
Il se cherchait pas vraiment d'excuses. Il disait juste qu'il était pas bien aujourd'hui.
Ouais. Non. Il ne pouvait pas être bien.
Il ne pouvait pas être bien puisque attends, il a été mis KO. Hier, par un crochet au foie, qui a fait qu'il a eu un chaos d'une demi-heure, avant de refaire surface, il ne pouvait pas être dedans aujourd'hui. Qu'on va chercher maintenant à trouver 10 000. T'as mal à l'estomac, tu prends pas 7 minutes parce que t'as mal à l'estomac. Tu prends pas 7 minutes parce que t'as gratté le genou. Faut arrêter. Quand tu vois que t'as des coureurs qui, avec des fractures, continuent. Non. Après, il n'y était plus. Et Dieu sait si j'aime ce coureur, dans la tête, c'était fini. Le nerf de la tête avait sauté. Donc le système endocrinien ne produisait plus rien. Donc il avait l'impression de ne plus avoir de force. Mais c'est pas.
Juste pour préciser pour la chute, Cyril, c'est que c'est Vingegaard qui explique. Il est juste derrière Pogacar et il voit que Pogacar touche la roue de devant. Pogacar tombe. Vingegaard ne tombe pas. La pièce en ce moment est du bon côté.
Oui, mais attends,
une roue. Quand tu touches une roue, c'est que t'es pas là.
Ouais. Ok.
Ton cerveau est ailleurs.
On a plein de choses à se dire, Cyril. Donc on va essayer de faire court sur chaque débat.
Non, excuse-moi, je vais essayer de faire court parce qu'il faut toujours que je fasse court. Moi.
Mais non, mais pour tout le monde, tu sais, c'est pas la peine. Si tu fais 10 minutes, les autres font une minute. Donc du coup, il faut.
Ouais, mais bon, c'est peut-être mieux.
Ça certainement. Très bien. Bon, Jérôme, t'as le droit de faire 10 minutes maintenant sur.
J'arriverai pas. J'ai pas ce talent.
C'est quand même terrible de voir un tel champion dans cet état-là. Vingegaard, Pogacar, comme le disait Cyril, c'est un coureur qu'on adore. Les défaillances de champions, on n'en voyait pas beaucoup par le passé.
Mais
là, c'est une vraie défaillance.
C'est une vraie défaillance, et puis ça va contribuer à rendre Pogacar encore plus populaire.
Et oui,
rappelez-vous, Christopher Froome a gagné 4 tours. On lui jetait de la pisse, de la bière, tout ce qu'on pouvait trouver. Après, il a eu sa chute. Il était dans Gruppetto et tout le monde aimait bien Christopher Froome. Et ben voilà, ça montre que même tout Pogacar qu'il est, un des meilleurs coureurs du monde, si ce n'est le meilleur coureur du monde quand il n'a pas ses problèmes de préparation, etc., et ben il peut avoir des défaillances aussi. Et Vingegaard est moins aimé parce qu'il écrase la course, parce qu'il est le meilleur. Et ben voilà, ça fait comme.
Et puis un jour, il pètera aussi.
Et un jour, il pètera parce qu'il y aura peut-être un jeune qui va arriver, qui va le mettre dans les cordes, pareil. Et ben voilà, Pogacar, c'est comme ça cette année. On espère. Vingegaard va en gagner un deuxième, deux pour Pogacar, deux pour Vingegaard. Pogacar. Je vous rappelle que quand Egan Bernal a gagné son premier tour, on a dit il va en gagner 5 à la suite. Pogacar en a gagné 2, il va en gagner 5 à la suite. Bah pour l'instant, aucun des deux.
Vingegaard doit peut-être en gagner 5 à la suite.
Et bah on verra. En tout cas, il faut pas gagner le tour trop jeune apparemment, parce que Jan Ulrich l'avait gagné très jeune, il en a pas non plus enchaîné 5, donc il y en a plusieurs, hein. Laurent Fignon aussi, il y en a plein finalement qui ont gagné
après,
jeune.
Les raisons sont différentes. Egan Bernal, on oui, rappelle non, mais... que c'est un accident.
Oui, parce que le problème Fignon, je peux te l'expliquer si tu veux.
Ah, non, pas maintenant, non pas maintenant, on en reparlera.
Non mais je te prends 12 minutes.
Mais non mais ton temps de parole est
peur. Mais oui, alors tu sais que je dois respecter le temps de parole, monsieur. Monsieur Coppel, vous avez droit encore à
ça. On n'est pas dans un débat politique, Christophe.
Mais est-ce que Egan Bernal, même sans sa chute, aurait pu rivaliser avec les deux coureurs là? On ne sait pas. Est-ce que Remco Evenepoel qu'on attend, est-ce qu'il va pouvoir rivaliser? Tant qu'on l'a pas vu sur le terrain face à ces deux-là, eh ben on n'en sait rien.
Où l'on reparle quand même de cette préparation du tour pas vraiment optimale pour Poggi, on le rappelle, victime d'une fracture du scaphoïde lors d'une chute dans Liège, Bastogne-Liège, intervenu en avril dernier. Il n'avait pas recouru entre ce Liège-Bastogne-Liège et le départ du tour, sauf le championnat de Slovénie. Il n'avait pas de course par étape dans les jambes. Est-ce que ça a pu jouer là aussi un rôle important? On l'a évoqué en début de tour. On pensait que c'était passé finalement lorsque Pogacar a réussi à larguer Vingegaard dans la deuxième étape des Pyrénées, et puis bon, on a vu qu'au fur et à mesure, en troisième semaine, il n'y est plus quoi.
Ouais, alors, bah, toute proportion gardée, bien sûr, moi quand je me suis cassé la main au mois d'avril pour revenir au mois de juillet pour le Tour de France aussi, bien sûr je ne faisais pas le classement général, j'ai fait beaucoup d'hommes-traîneurs, j'avais pu revenir au Tour de Suisse vraiment en très bonne forme, le championnat de France, j'ai été champion de France, ça allait bien, et après au Tour, petit à petit, j'ai dégringolé, mais pas, bien sûr je ne jouais pas le classement général, mais à mon niveau, je dégringolais. Et avant le tour, c'est ce que je me suis dit pour Pogacar. Je me suis dit, bien sûr, il a dû faire une grosse préparation sur home trainer avant de repartir en altitude, etc. Est-ce que ça va tenir 3 semaines? Personnellement, je me suis dit que oui, parce que Pogacar, ça reste un grand champion et c'est pas Jérôme Coppel, sinon je serais pas avec vous dans ce camion RMC. Donc je me suis dit, ça va passer. Et finalement, la préparation, bien sûr, quand on a une préparation tronquée comme il a eu, même si on s'appelle Pogacar, au bout d'un moment, ça finit par coincer quand même.
Tiens, on va écouter Mauro Gianetti justement sur cette préparation un peu compliquée pour son poulain Tadej Pogacar aujourd'hui en pleine défaillance.
Il faut quand même être cohérent d'où il vient. Il a eu une période de préparation. Seulement Tadej Pogacar, il peut faire ce qu'il est en train de faire, parce que probablement qu'un autre coureur, il aurait pu se présenter au Tour de France en si peu de temps, en cette bonne condition. Deuxième au général, avec une étape aujourd'hui, très difficile, il s'est quand même sauvé. Seulement avec une grande classe, on peut sauver quand on a une journée mal, comme il s'est sauvé lui aujourd'hui. La base d'entraînement, elle n'était pas l'idéal. Donc, au premier moment, on savait qu'il n'était peut-être pas au 100% et qu'il allait pouvoir progresser dans ce tour. Pendant un moment, il a quand même bien progressé. Maintenant, aujourd'hui, hier, il a fait quand même une bonne preuve. Peut-être pas la meilleure, parce qu'il pourrait peut-être faire un peu mieux. Et peut-être il a un peu encaissé moralement la journée. Et puis en plus, la chute, sûrement, au départ de l'étape, il n'a pas aidé, quoi.
Voilà, Mauro Gianetti, le manager de la formation UAE, sur cette préparation un peu compliquée pour Tadej Pogacar. Alors, il y a non seulement la préparation, il y a aussi le fait, la volonté de Pogacar, Cyril, de vouloir disputer toutes les courses quasiment du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il a brillé, on le rappelle, avec un triplé lors des classiques avant de chuter sur Liège-Bastogne-Liège.
Je viens de le rappeler.
Est-ce que pour espérer remporter un troisième Tour de France, un jour, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, il ne doit pas finalement opérer une préparation différente, c'est-à-dire oublier les classiques ou les sélectionner? Ce serait dommage, évidemment, parce qu'on adore Poggi, on adore le voir dans les classiques de printemps, mais s'il veut remporter un troisième tour, est-ce qu'il ne doit pas changer des choses?
Non. Non, le cyclisme, c'est du 1er janvier au 31 décembre, et on a la chance d'avoir un coureur qui le fait. Maintenant, quand vous regardez le parcours de Vingegaard cette année... son palmarès, et que vous regardez celui de Pogacar, c'est kiff-kiff.
Il a gagné beaucoup de courses.
Sauf qu'il n'y a pas le Tour des Flandres, mais est-ce que...
Et c'est plus des courses par étapes, il a plus disputé des courses.
Est-ce que Vingegaard, il peut aller sur le Tour des Flandres? Non.
Non.
Bon. Donc, leur programme de compétition, etc., il est similaire, sauf qu'en fonction de qualités spécifiques, il y en a un qui va aller faire le Tour des Flandres et l'autre il va pas y aller parce que il sait qu'il va être pas ridicule, parce que t'es jamais ridicule quand tu voltiges, mais en plus il aime pas. Bon, ne remettons pas tout en cause, sinon moi je vais remettre en cause le programme de Valentin Madouas.
Non mais je remets pas en cause.
Non mais je vais remettre
la question. Ça fait deux fois qu'il perd le Tour de France quand même. Ça fait deux fois qu'il perd le Tour de France.
Le Tour de France, quand vous allez jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, et je sais de quoi je parle, j'ai quand même été directeur sportif. Je voudrais quand même vous le rappeler. À Liège-Bastogne-Liège, vous êtes en avril. Le Tour de France, c'est en juillet. Donc, attendez, faut pas se... parce que attends, tous les ans on remet en cause ce qu'on a validé l'année d'avant.
On ne remet pas en cause, on pose des questions, c'est tout. Jérôme,
non mais justement, j'essaye de répondre aux questions.
Ouais. Mon avis, je vais simplement prendre son programme de course. Quand il a gagné ses deux grands tours, ses deux Tours de France, il n'est pas passé par les classiques flandriennes. Il est passé que par les Ardennaises. Des courses par étapes. Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Les deux fois, il n'est pas passé par les Ardennaises. C'est quand même pas le même travail qu'on doit faire quand il faut aller sur des pavés, etc.
Oui, et mais un type qui gagne le Tour de France, il ne faut pas qu'il aille sur le Tour des Flandres.
Mais je dis, c'est pas ce que je dis. J'essaye de regarder le programme qu'il a eu quand il a gagné ses deux tours et quand il s'est fait battre à chaque fois. Et la différence, c'est qu'il n'a pas été sur les Flandriennes. Je suis désolé, c'est un constat. Point.
Oui, mais c'est un constat et j'accepte le constat. Mais est-ce que quelqu'un de cette dimension doit squeezer les plus grandes épreuves du calendrier?
Non, mais alors...
Non, moi, je crois qu'il a envie, parce que c'est dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a envie de se faire plaisir et d'avoir un grand palmarès. Et peut-être qu'on se souviendra plus dans l'histoire de lui que de Vingegaard.
Tout à fait d'accord. Moi, je m'en fous qu'il gagne 5 Tours de France. Je préfère qu'il gagne tous les monuments, par exemple.
Très bien. Ben, je suis d'accord avec vous. Très bien. 19h18 sur RMC. On revient toujours à Courchevel dans quelques instants pour évoquer la victoire de Vingegaard, celle de Félix Gall, également vainqueur d'étape. Et puis on s'intéressera sur ce nouveau fait de course avec la course interrompue par des motos qui ont chuté et par des voitures qui ont fait un véritable embouteillage aujourd'hui dans l'ascension du col de la Lauze. Tout d'abord le volet avec malheureusement la défaite de l'équipe de France en quart de finale de la Ligue des Nations. Mathis Caron, ils n'ont pas pu s'imposer face aux États-Unis, les Français.
Oui Christophe, que c'est cruel pour les Français face aux Américains qui viennent de s'imposer en 5-7 en Pologne, 15-9 dans ce cinquième et dernier set pour les États-Unis. On le rappelle, les Bleus ont très très mal débuté ce match et perdaient 2-0. Ils étaient beaucoup trop brouillons en début de match sur leur service notamment, mais ils se sont accrochés et ont retrouvé leur niveau petit à petit grâce au bon changement du sélectionneur Andrea Gianni notamment. À 2-7 partout, on y a cru, mais après plus de 2 heures de jeu, les Bleus ont craqué. Ils pourront se rattraper à l'Euro fin août, on le sait, c'est leur priorité. Les États-Unis, eux, vont affronter l'Italie ou l'Argentine en demi-finale de cette Ligue des Nations.
Merci beaucoup Baptiste. 19h19 sur RMC, l'After Tour revient dans un instant, toujours en direct de Courchevel.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Courchevel sur l'Altiport avec une magnifique vue sur toutes les montagnes de cette vallée de la Tarentaise. On s'est régalé aujourd'hui et les coureurs peut-être un peu moins qui ont souffert énormément dans ce col de la Lauze. On va y revenir dans un instant. Le vainqueur dimanche prochain sur les Champs-Élysées, ce sera donc Vingegaard, monsieur. Là, il n'y a plus beaucoup de suspense. Il y a toujours évidemment le couac possible, hein, une chute ou une maladie à l'Arnaud Souk. Et puis Vingegaard pourrait laisser.
Il a abandonné Arnaud ?
Non. Il va se refaire la cerise pour demain. Il sera là sur la moto demain.
On espère. Allez, meilleure santé. Passe une nuit tranquille. Tu fais juste un potage ce soir et tu vas au lit.
Mais d'après tes analyses médicales, ces problèmes-là, c'est lié au stress et donc au la peur.
C'est le nerf de la Lauze qui a craqué.
Il a eu peur de la
Lauze. C'est peut-être pas tout à fait faux. Hein.
Ouais. Alors, pour la deuxième année consécutive, Vingy va donc s'imposer. On pensait pourtant, rappelez-vous, l'automne dernier, lorsque on avait l'impression qu'il était un peu en burn-out, il avait eu du mal à digérer. Vingegaard. on avait l'impression qu'il avait du mal à digérer cette victoire dans le Tour de France. Et pourtant, le voilà à nouveau. Il semble bien parti, finalement, même si Jérôme le disait tout à l'heure, il faut faire attention, on ne sait jamais, tout peut arriver. Mais il semble bien parti pour une belle domination, quand même, là.
Non en tout cas, cette année, c'est
si Pogi continue à faire les classiques.
Ouais. C'est encore une plus grosse domination qu'année dernière. C'est vrai qu'on se demandait comment il allait rebondir de sa victoire l'an passé sur ce Tour de France. Tu l'as dit, quasiment burn-out. On ne l'a pas vu de toute la fin de saison, quasiment. Il répond sur le terrain. Je sais pas quoi dire. Ce qui est parti pour une domination, j'ai envie de dire oui, mais je disais pareil pour Pogacar il y a deux ans de ça. Et puis
pour Egan Bernal avant.
Et même avant le départ de ce tour, j'avais mis Pogacar comme mon favori du Tour de France.
Toute l'équipe.
Ouais, donc
mais même, bon, on est très fort en Paris.
Donc même si Vingegaard a gagné l'année dernière, j'en faisais quand même pas mon favori numéro un cette année, malgré la blessure de Pogacar.
Ouais,
donc signe qu'on y croyait finalement pas tant que ça. Donc il est surprenant, il est capable de se remettre, parce qu'il a dit qu'il était pas en dépression, mais que ça avait quand même été très très dur. Il a pas dit le mot burn-out non plus, mais que ça avait été... C'est pas un personnage médiatique, hein, Vingegaard. Ce qu'il aime, c'est être tranquille chez lui, avec sa femme et sa fille.
Ouais.
Et c'est tout. Donc là, rentrer en jet privé, un jet aux couleurs
jaunes... La fête nationale à Copenhague,
du monde partout à Copenhague, je peux comprendre que dans la tête, ça a été un peu difficile. Et ben, il a réussi à se remobiliser. Depuis le début de l'année, il fait une saison incroyable et puis il confirme sur le tour.
Ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il y a trois jours, on se disait, on va peut-être vivre un Tour de France avec un des plus petits écarts à l'arrivée. On était sur une 10 secondes.
Et on était le quatrième tour le plus serré après la 14e ou 15e étape.
Et que finalement, on va peut-être se retrouver avec un écart qui sera dans les 15 plus importants. Parce que, je vous rappelle, ça doit être à peu près le 15e écart le plus important. Mais on est dans des dates assez récentes. C'est Laurent Fignon, Bernard Hinault, 1984, 10 minutes 32. Des écarts très importants.
Et au début de tour, je disais que peut-être le point faible de Vingegaard, c'est justement son mental, avec ce qu'on vient d'aborder. Je me suis complètement planté, c'est clair. Parce que là, mentalement, finalement, il n'y a rien qui l'atteint.
Alors, Vingegaard, aujourd'hui, n'a pas remporté l'étape. Comment vous interprétez ça? On va parler tout à l'heure de l'incident avec les voitures. Cyril, est-ce qu'il n'a pas aussi été assez intelligent, justement, pour ne pas écraser le tour? Il a même été lâché par... Il l'a écrasé, d'accord, mais c'est parce que Pogacar s'est écroulé aujourd'hui. Mais lui, il n'a pas dominé les débats, il n'a pas remporté l'étape. Il s'est même fait larguer par Bilbao dans le dernier radar. Cyril, comment tu interprètes ça? Est-ce que il a voulu...
Non, mais le dernier radar, on n'est pas dans la même course, là.
Ouais.
Il finit... sur les étoiles. D'abord, pourquoi il gagne pas l'étape? Parce que tu as un coup de 34 mecs qui partent, et dans les 34, c'est
les coureurs qui partent. Ils avaient 2 minutes 30 au pied.
Attends, tu me laisses expliquer, s'il te plaît.
Oui, justement.
Bon, ça part dans les Aravis, donc les coureurs qui se vendent, c'est des gens qui ont les jambes.
Col des saisies, parce que les Aravis, c'était il y a 3 jours.
Col des saisies, pardon. Bon, d'accord, c'est bien de me... mais c'est vrai. Et ceux qui sont devant, c'est des gens qui sont en canne. Et le coupeur, ils font des tempos derrière normaux. Et puis, dans le groupe des 34, il y a des équipes qui sont représentées par 2, 3, voire 4 coureurs. Et derrière, la course se passe normalement. On gère à une 15, à une 30, ça passe à une 45. Dans le Cormet de Roseland, on se retrouve à une 45, une 50. Ouais. Voilà, bon. Et le problème, c'est que devant, on roulait à la même vitesse que le peloton. Ouais. Et comme ils étaient 34, ça veut dire que dans les 34, quand tu es en 10e position du peloton ou en 10e position de l'échappée, tu fais pas plus d'efforts.
D'accord.
Et puis arrive un moment où d'un seul coup, tu as des équipes qui se disent, dont AG2R, mais attends, là on peut jouer la gagne d'étape. Et dans un premier temps, ils ont régulé pour que l'écart ne monte pas. Et puis à un moment, AG2R, ils ont mis en route. Ils ont mis en route avec O'Connor.
On va un petit peu, s'il te plaît, parce que là, on n'est même pas au début du col de la Lose dans tes explications. On est encore dans le col des saisies, là, je te signale. Hein.
Bah, écoute, si je ne suis pas capable d'expliquer une course correctement, tu me le dis. Bon, tu me poses une question, je te réponds.
Mais oui, mais
et après, AG2R, avec O'Connor, ils ont mis en route, mais vraiment en route. Et le peloton, et y compris Pogacar, ne pouvait pas revenir.
D'accord, Vingegaard non plus. Donc.
Et moi, je pense que Vingegaard pouvait revenir. Parce que quand il prend 25 secondes par kilomètre et qu'il reste 4 kilomètres encore dans la Lose, plus la montée finale, sauf que il se passe quand même un incident de course, Christophe. On est obligé d'en parler.
On va en parler dans quelques instants. D'abord, on écoute Vingegaard. Vous voulez bien?
Très bien.
Je sais que vous adorez parler des motos et des voitures qui faussent la course. Mais d'abord, écoutons celui qui s'imposera.
On aime les moteurs, nous.
Dimanche sur les Champs-Élysées, Jonas Vingegaard.
I think Tadej is a fighter, so for sure he will keep fighting. So
je pense que Tadej est un combattant, donc il va continuer à se battre.
until we are in Paris.
Of course, we're pas que la bataille est finie et tant qu'on n'est pas arrivé à Paris.
Nice that we have a lead of,
bien sûr qu'on est content et puis c'est très bien d'avoir une avance de 7 minutes.
We're not in Paris yet and,
mais on n'est pas encore à Paris.
Tricky stages to come.
Il reste 3 étapes. J'ai été surpris qu'il craque aujourd'hui.
Je
pensais qu'on devrait se battre dans le col de la Lauze. On peut être content de comment les choses se sont passées aujourd'hui.
On le comprend. La superstition du sportif de haut niveau. Non, non, non. La course n'est pas remportée tant que la ligne
finale
n'est jamais.
C'est normal. Il sait qu'à la pédale, il ne sera pas battu. Mais qu'est-ce qui peut se passer? On a vu, Pogacar, il est bien tombé aujourd'hui. On ne sait pas ce qui peut se passer. Par contre, son discours, c'est quand même. Il dit oui, Pogacar va continuer. Bien sûr, Pogacar, il l'a dit aussi samedi, j'aimerais gagner l'étape pour mon équipe. Mais il n'a pas dit qu'il voulait gagner l'étape et renverser le Tour de France. Il sait bien que c'est plus possible. Par contre, quand tu dis que Vingegaard n'a pas assommé le tour de nouveau aujourd'hui, enfin son premier adversaire à la pédale, Adam Yates, il prend quand même 2 minutes. J'enlève ceux qui étaient échappés, hein, qui avaient un coup d'avance.
Il a pas, c'est pas qu'il n'a pas écrasé le tour, mais il a pas gagné aujourd'hui et il a craqué dans le final. Donc il donne une image, pas d'un mec qui craque, mais.
Non, il n'a pas craqué dans le final, mais il sait qu'il ne va pas gagner l'étape. Ce qu'il voulait gagner, c'était l'étape aujourd'hui.
Okay. Et il n'a pas aussi pensé, pensez pas qu'il s'est dit, ok, c'est peut-être mieux si je gagne pas. Et
non,
si
mais t'as vu à quelle vitesse il est passé à côté
non,
des.
Il est passé à toute vitesse à côté
de Godu, à côté de Martin, à côté de tout le monde. C'était une fusée encore.
Mais l'image qu'on retiendra ce soir, c'est, je pense, c'est Vingegaard qui se fait déposer par Bilbao.
Non, c'est Pogacar.
Oui, c'est Pogacar. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, est-ce que sur les réseaux sociaux, ça bruise comme hier soir? Sur Vingegaard,
on n'est pas sur les réseaux sociaux.
J'ai pas fait attention, mais par contre, beaucoup disent, j'espère que personne n'est tombé dans le panneau que Vingegaard s'est fait lâcher par Peyo Bilbao. Apparemment, t'es tombé dedans.
Mais je t'explique que je pense qu'il a voulu montrer ça pour ne pas montrer une domination outrancière.
Moi, je pense qu'il faut que tu viennes. Faut que tu viennes au moteur pour expliquer ce qui s'est passé.
On dégage. Allez, 19h31 à tout à l'heure. On revient dans un instant.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à 20h, l'After Tour en direct de l'Altiport de Courchevel aujourd'hui, donc on vous le rappelle, Pogacar a craqué. Il est désormais très loin au classement général derrière Vingegaard. La victoire d'étape, parce qu'on ne parlera pas de la moto ce soir, ça sera pour vous punir. La victoire d'étape revient donc à un Autrichien nommé Félix Gall, membre de la formation française AG2R Citroën. Un garçon qui, en début de tour, n'était que le lieutenant de Ben O'Connor, mais qui a su compenser les défaillances de son leader, transformé aujourd'hui en équipier de luxe. Un gros travail de Ben O'Connor aujourd'hui. Félix Gall, vous allez l'entendre, très ému après avoir décroché ce qui est sans doute le plus beau succès de sa carrière. Il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à présent, on l'écoute.
I'm really happy. For the team, they've given me so much, so much confidence since I came into this team. It's been an incredible journey so far, just 1.5 years, and especially this year.
I finally
have the consistency, and
j'arrive à être constant.
Yeah. Tour de Suisse was already a surprise and now even
Tour de Suisse a déjà été une surprise et là c'est encore plus évidemment.
Magnifique numéro donc réalisé par l'Autrichien. Victoire d'étape rapprochée au général. Il est ce soir 8e à 16 minutes 11 tout de même de Vingy et offre donc à son équipe un très beau succès. Tout cela un mois seulement après avoir décroché, Pierre-Yves, son premier succès chez les pros.
Ben oui, il en parlait à l'instant, c'était le 23 juin dernier, Félix Gall qui remportait sa première victoire pendant le Tour de Suisse. Et à l'époque, il disait, je suis dépassé par les événements, c'est incroyable, je peux toujours pas y croire, j'ai besoin d'un peu de temps pour réaliser ce que je viens de faire. Voilà ces mots, il y a 4 semaines, 15 jours plus tard, une anecdote, tiens, prouve qu'il a des jambes de feu. Vous vous souvenez, lors de la deuxième étape, Félix Gall se trouve dans la difficile montée de la côte de Piquet au Pays Basque, et il est chargé de rester avec O'Connor. Alors au milieu du peloton, il aperçoit son coéquipier Clément Berthet et puis il lui lance « Elle est où la montée très raide là ?»
Nous sommes en plein dedans, lui répond le Français. Et l'Autrichien, là, se rend compte qu'il a des jambes vraiment de feu, qu'il y a peut-être mieux à faire. Félix Gall, il faisait partie de l'équipe réserve de la DSM avant de rejoindre AG2R il y a un an. Passionné de golf, eh bien, Gall est en train de faire son trou dans cette équipe où il a pris le lead après la défaillance de Ben O'Connor, qui s'est mué aujourd'hui en coéquipier de luxe grâce à l'état d'esprit exemplaire de l'Australien. Gall n'a pas d'attache véritable. Il passe d'appartement en appartement, du Tyrol aux Canaries. Il se verrait bien filer vers l'Afrique du Sud, ça lui plairait bien. Mais pour le moment, il a la tête dans les nuages.
Voilà, voir un Autrichien gagner une course à Courchevel, ça a rappelé des mauvais souvenirs à Édouard G, les courses de ski, évidemment, où les Autrichiens dominent tout. Mais là, s'ils viennent gagner les courses cyclistes...
Passionné de ski aussi.
Forcément, quand tu es Autrichien, tu es passionné de ski. Incroyable quand même, Jérôme, que ce garçon, lieutenant, presque pas inconnu, mais bon, qui n'avait pas de grosses ambitions sur ce tour, vienne gagner une étape, soit dans le top 10, et su justement suppléer les manques de Ben O'Connor.
Ouais, ben, AG2R ont eu le nez fin d'aller le chercher chez DSM. D'ailleurs, Julien Jordi s'est pas gêné pour mettre un petit tacle à DSM en zone d'interview en disant qu'il prenait pas du tout de plaisir chez eux, que là, il retrouve le plaisir, etc. Mais pareil, si on remonte le fil de sa saison à Félix Gall, finalement, c'est pas vraiment surprenant. Il disait, Pierre-Yves, tu l'as dit, qu'il était plus constant, plus régulier. Il fait 16e du général à Tirreno, il fait 10e au Pays Basque. Il fait 9e au Tour des Alpes, il fait 8e au Tour de Suisse, voilà, il monte. Et rappelez-vous, l'étape de dimanche à Saint-Gervais, il a un ennui mécanique juste à la bascule de la côte des Amerans avant d'aller chercher la montée vers le Bétay. Il doit changer de vélo, il perd beaucoup de temps, sinon il était déjà dans le top 10. Donc il fait vraiment un tour vraiment solide, et puis il a fait un super chrono en changeant de vélo, lui d'ailleurs.
Et on va le revoir au Markstein, très certainement. Pourquoi ? Parce qu'il a seulement 6 points de retard au classement du meilleur grimpeur sur Ciccone. Il est deuxième. Il peut aller chercher en plus un maillot distinctif.
Oui, mais qui a 7 points de retard sur Ciccone?
Qui a un point de retard sur Félix Gall? Vingegaard. Oui, mais si, il faut que, à mon avis, Ciccone et Gall, pour tes pronostics, tu les mets dans l'échappée.
J'ai plus besoin de faire pronostics. Vingegaard. Gagner le concours, là. T'es pas au courant encore?
Je pense qu'on va revoir les règles ce soir.
C'est jamais gagné tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée.
Ah bah oui, je peux avoir un problème d'estomac, surtout que Arnaud est quand même rentré dans le camion tout à l'heure. Cyril, AG2R, qui n'égale pas tout à fait Cofidis, mais qui devient quand même la deuxième équipe française à s'imposer, à remporter une étape dans ce tour. Il y en a deux pour Cofidis. Heureusement que les équipes françaises ont des coureurs étrangers dans leur rang quand même.
Bon, je vous vois venir là. Tu me balances sur un... sur un marécage.
Non, mais c'est vrai. Il s'est bien recruté quand même. Là, c'est la
preuve. Oui, mais alors avant que Cyril réponde,
ne me dis pas que AG2R s'est bien recruté. Tu prends les recrutements depuis 5 ans. À part O'Connor.
Ben, O'Connor, c'est pas mal quand même.
Ouais, c'est pas mal. Sauf qu'ils l'ont pris pour faire dans le top 5. Bon.
Ouais, bon.
Non, mais parce que si vous voulez rentrer dans ce sujet-là, on va être mal. En fait, ils ont deux bons recrutements.
Bon appétit, c'est
Félix Gall et O'Connor. O'Connor n'est pas dans le coup aujourd'hui, mais sur les autres recrutements, on peut quand même se poser beaucoup de questions. Je suis désolé, Vincent, mais je suis obligé de le dire.
Bon. En tout cas, c'est une belle recrue que ce Félix Gall, un garçon qui pourrait, à l'avenir, encore monter d'un cran, non ?
Alors, bien sûr.
Attends, moi, je le suis depuis à peu près un an et demi, parce que je ne le connaissais pas. Et c'est quelqu'un qui a aujourd'hui 25 ans, et qui a une progression depuis un an et demi, deux ans, qui est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, il va finir effectivement dans le top 10. Mais attendez, c'est pas un super, mais c'est un bon laborieux qui lève le cul, qui va, qui est solide. Voilà, point.
Mais c'est pas en 2015, on le rappelle.
Ouais,
oui, moi je pense qu'il... bien sûr. Bon, le gars qui a aussi été champion du monde en junior. Hein.
Donc bon. OK, donc c'est un laborieux.
Non, mais
il
faut pas raconter l'histoire.
Donc
pour moi, parce que vous me posez la question, laissez-moi répondre.
Le gars qui a pas gagné d'étape sur le tour, entre le gars qui est égal, il y a quand même une différence de step quand on voit ce qu'il est capable de faire à 25 ans.
Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est pourquoi quand vous me dites ah oui, mais il a été champion du monde junior, OK, le gars aussi, on n'a pas le même palmarès à 25 ans. Bon, voilà. Donc me racontez pas d'histoire, pas à moi si vous voulez. Bon. Et je vous dis que Félix Gall est dans une progression aujourd'hui qui va en faire un très bon coureur pro, mais pas un super coureur pro.
D'accord. Pas pour remporter le Tour de France, mais peut-être pour faire un.
Ah bah
un
oui,
top
oui,
5.
Tout à fait.
Pour la petite pirouette, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Les équipes étrangères sont aussi bien contentes de recruter des Français. Julien Lafilippe, deux fois champion du monde. Sylvain Chavanel chez Quickstep, Romain Bardet chez DSM.
Oui, enfin,
ils sont
sur
aussi
le tour,
très bien contents.
Sur le Tour cette année.
Ouais, mais voilà. À part cette année, sinon
Romain
on a toujours
Bardet,
gagné
Julien
une étape.
Lafilippe, non, mais je te parle des Français. Dans les équipes étrangères cette année, c'est pas une réussite.
Ok, pas cette année. Mais Félix Gall, c'est une réussite cette année. Mais Julien Lafilippe, tous ses autres tours, maillot jaune, victoire d'étape, ça marche dans les deux sens aussi.
Très bien, on va écouter Julien Jourdi qui va pouvoir se faire un nouveau tatouage, puisque vous le savez, depuis la série Netflix, il fait des tatouages à chaque fois qu'il y a un grand moment dans l'équipe.
C'est pas avec les titres de Saint-Etienne qu'il va pouvoir.
Mais si ça continue, il va plus avoir de place.
Ah oui, ça c'est le problème. On l'écoute, Julien Jourdi, donc ravi évidemment pour la victoire de son poulain, Félix Gall, aujourd'hui.
Ouais, une étape de fou. Puis on a vu une bagarre qui était géniale. Il y a eu quand même un beau bras de fer avec Yates jusqu'à l'arrivée pratiquement. Voilà. Et puis une foule une fois de plus. Honnêtement, je vais bientôt avoir 20 tours dans la besace. Je suis impressionné. Pas qu'aujourd'hui, depuis le départ, et notamment dans le massif alpestre, de cette ferveur populaire, de cette jeunesse qui est au bord de la route, qui fête le Tour de France, même si, demain, honnêtement, c'est limite. On était derrière, nous bloqués quand le maillot jaune arrive sur nous. Voilà, il a fait du surplace pendant 10-15 secondes. Voilà, c'était tout bloqué par la foule. Voilà, donc c'est des émotions voilà, uniques. C'est pour ça qu'on bosse comme des fous avec Vincent, avec l'ensemble du staff, pour vivre ces moments-là.
Voilà, Julien Jourdi qui, dans la suite de l'interview, évoquait donc aussi cette histoire. On lui posait la question de savoir si la course avait été faussée et que est-ce que si Vingegaard n'avait pas été bloqué, il aurait pu revenir sur Félix Gall. Julien Jourdi donc répondait que non, pour lui la course était déjà jouée. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Ouais, moi je suis d'accord aussi avec cette analyse, parce que même s'il perd 15 secondes, ça aurait rien changé au bout du compte. Je pense que Vingegaard avait trop de retard, même quand il a été gêné, même si ça l'a un peu freiné dans sa progression, et peut-être qu'après il n'a pas repris le rythme qu'il avait avant cet incident. À mon avis, ça n'aurait rien changé.
Et puis,
les deux premiers
auraient
été les mêmes. Ouais, en plus, il s'en fichait.
Il savait que de toute façon, il ne pouvait pas. Mais avant le problème des motos, il savait qu'il ne pouvait pas aller le chercher. La gagne, elle était faite à 5 bornes. Attends, au sommet de la dernière ascension, la gagne, elle était faite. Sauf si, effectivement, dans la descente, il se scratchait ou il descendait comme un tréteau. À partir du moment où tu
n'as pas été le cas,
t'avais Yates derrière. Yates a été incapable d'aller plus vite qu'eux. D'ailleurs, il pratiquement l'écart est le même en haut qu'en bas, sauf qu'il y en a un qui dans la dernière ascension, il pète un peu les plombs parce qu'il sait qu'il peut pas y aller. Mais ils ont fait tout à 20 secondes au sommet. Sommet, le classement était fait.
D'accord. Ok. Donc ok. Bon, pas de souci là-dessus. Bon, malgré tout, il y a eu ce nouvel incident de course avec cette course et notamment le maillot jaune qui a donc été gêné par des véhicules. Il n'est pas le seul, évidemment. Nouvel incident sur lequel les organisateurs n'ont toujours pas voulu s'expliquer. Hein. Ce genre de choses, on n'en parle pas.
Tu peux plus en parler, lui.
Ah non, je parle des organisateurs, ouais. Hein, parce qu'on a essayé de les interroger. Non, no comment, ça n'intéresse personne. Thibaut Pinot, lui, effectivement, s'en est expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas si on a le bon morceau de l'interview, mais vous allez voir, le coup de gueule de Thibaut Pinot était quand même sévère tout à l'heure.
Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est j'ai failli me faire la course arrêtée à cause des motos et de la voiture. Je pense qu'il y a une moto qui aurait pu me tomber dessus. C'était honteux. Je restais bloqué au moins 30 secondes et surtout, j'avais les motos qui me tombaient dessus presque. C'était n'importe quoi. Je pense qu'il y a certaines motos qui ont dû caler, je pense. Et puis, mais on laisse passer les voitures alors qu'il y a 15 secondes entre les groupes. Je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas.
Il y a des choses que je comprends pas, nous dit Thibaut Pinot. Et vous les comprenez, Jérôme ?
Non. Et nous, on regarde en plus de la télé. Donc non, on comprend pas. Eux, en plus, ils sont dans le peloton, à l'intérieur. On a vu une vidéo de Thibaut Pinot. Il se tient sur la voiture de Julien Jourdi, justement, et il attend. La vidéo dure 20 secondes.
Il est obligé de déchausser.
Il se tient, il déchausse. Et puis avant, il a déjà dû ralentir. Quand on est dans une bosse aussi raide, il y a beaucoup de véhicules sur une bosse qui est quand même pas très large avec autant de monde.
Voilà, donc nous, alors là, on voit priori, ça de la télé. A priori, c'est une moto qui a chuté, on nous a dit.
Chuté,
le temps de la redresser, ça prend du temps. Ce sont des motos très lourdes. On est quand même dans une pente très escarpée.
Et puis juste derrière, il y avait la voiture de la direction de course. Et puis il n'y a pas d'échappatoire.
Il vient s'empiler.
Voilà. Il n'y a pas d'échappatoire sur le côté.
Ce qui est terrible, c'est quand on regarde après le classement de l'étape et puis qu'on s'aperçoit que Thibaut Pinot, il termine à 10 secondes d'Adam Yates. avec le temps perdu. Donc là, c'est faussé.
Adam
pour lui,
Yates, l'étape. Adam Yates n'est pas bloqué, lui.
Bah si, Adam Yates, il a dû être gêné aussi.
Non, mais Thibaut Pinot, sur les images, on voit qu'il n'y a que lui qui est bloqué derrière les voitures.
Non, mais parce que, puisque Adam Yates, il était entre Vingegaard et Thibaut Pinot, il a forcément été gêné.
Sur les images, j'ai pas l'impression qu'il soit. C'est pas le même moment. Je pense que Vingegaard perd moins de temps que Thibaut Pinot de ce qu'on voit des images.
Ah oui,
là,
oui.
Ça joue sur la course une nouvelle fois.
Ça, c'est certain parce que Vingegaard, il a entre guillemets que la voiture rouge et la moto à passer, à contourner, alors que Thibaut Pinot, bah, il y a la voiture, la G2R, il y a toutes les motos. Empilés,
ouais. Mais en revanche, derrière, on a le sentiment que c'est plus le même Vingegaard. Il appuie moins.
Il a compris qu'il a perdu l'étape.
Ouais, c'est ça. Donc ça joue quand même.
Ouais. Ouais, je pense qu'il avait compris bon,
ça,
avant.
Ça fait quand même deux fois, Cyril. Alors, je sais que ce sujet te tient à cœur. Si tu pouvais faire assez court quand même sur le dossier. Comment on résout ce genre de problème-là? Évidemment, une moto qui chute, ce sont des aléas de course. Tout le monde dit qu'il y a énormément de monde sur le bord des routes avec un public très jeune, très indiscipliné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer les spectateurs ou diminuer le nombre sur l'école?
Alors, moi, je vais te dire ce qu'il faut faire. Il faut supprimer les spectateurs. Et mettre des barrières du sommet en bas. Pas de spectateurs et des barrières, tout va très bien. Madame Lamarck. Madame Lamarck.
Tu penses pas vraiment ça.
Il faut rester sérieux, quoi, à un moment.
D'accord.
Quand là, je viens de revoir les images sur une chaîne de télévision que je ne citerai pas et qui remontent les images de l'incident. Bon. Mm-hmm. Ah, c'est peut-être une moto qui machin, etc. Peu de temps avant, tu avais une image où tu as 20 motos derrière un groupe de coureurs. Pas n'importe lesquels. S'il y a 20 motos, c'est pas le 90e du classement général. OK. Que font toutes ces motos? Bon. Le problème, c'est pas de remettre... Attends, on va dire, ah oui, mais les motos servent à quelque chose. Oui. Alors, je vais essayer de faire court. Le problème, il est au niveau des régulateurs de la course... et du président du jury.
Oui,
les régulateurs de la course sont sous la responsabilité de qui? Notre ami Prudhomme. Bon, le président du jury et l'ensemble de son collège, c'est eux qui doivent avoir l'intelligence, et là je vais revenir à ce que dit Thibaut. Regardez bien ce qu'il dit.
Oui, mais
pourquoi il y a autant de voitures qui nous doublent à certains moments et pas à d'autres alors qu'il n'y a que 15 secondes? Il est là le vrai problème, c'est l'intelligence de la gestion de la course par rapport aux écarts, par rapport à la vitesse des différents groupes. Et Thibaut, il dit la phrase clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de gérer la course à ce niveau-là parce qu'on la sent pas.
Ok.
Ça veut dire que les commissaires ne la sentent pas. Et ça veut dire aussi, j'en ai rien à faire si M. Prudhomme rentre dans la gueule demain, eux-mêmes ne la sentent plus.
Ok, voilà une attaque en règle donc de notre druide à destination de la direction du Tour de France. Voilà pour ce débat. Je pense que si à nouveau,
il faut espérer que ça soit la dernière.
Oui,
parce qu'on veut voir de la course.
Bien sûr, mais on a
meilleures conditions.
On a vu de la course. Allez, on revient dans un instant. Il est 19h49. Dans un instant, l'étape de demain. Bah oui, fini les Alpes. Nous allons descendre vers la plaine et vers Bourg-en-Bresse avec sans doute une étape réservée aux sprinteurs et puis les paris RMC. Évidemment, on va y revenir. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
L'after. Moi, je suis un peu cramé, moi aussi. Je suis comme Cyril. Je suis un peu cramé. J'ai envie de manger des cacahuètes et de boire l'apéro ce soir. Hein, Cyril, on est mieux quand on boit l'apéro quand même, non? T'es pas d'accord? Non, il dit pas, il répond plus là. Il répond plus. Allez, 19h52, on va. Ouais, quoi. Petite info. Oui, info importante.
Petite info, il y a une moto qui sera exclue demain par rapport à tout ce qu'on s'est dit, évidemment. Ouais. C'est peut-être là la raison, effectivement. Et cette moto, eh bien, c'est la moto son numéro 312 avec un commentateur qu'on connaît qui est à l'arrière, qui s'appelle Thomas Voeckler. Voilà, la sanction, infraction aux dispositions réglementaires ou aux directives concernant la circulation des véhicules dans la course, non-respect du cahier des charges, presse avant le sommet du col de la Lauze. Amende de 500 francs suisses aussi. Attention, messieurs. Hein, on ne sait jamais. Hein.
Ouais,
attention.
Heureusement qu'Arnaud était un peu. Voilà, heureusement qu'Arnaud était un peu malade. Ils ont pris de l'avance. On était sûr que c'était pas eux, quoi.
Ouais.
Et il y a aussi parmi les amendes aujourd'hui.
Et la voiture rouge, elle a pas
d'avertissement. Rien pour la voiture rouge. Avertissement officiel.
Donc ça, c'est assez sérieux pour Peyo Bilbao. Comportement déplacé envers un spectateur.
Petite baffe. Ouais, certainement.
Petite baffe.
Alors, je suis contre ça, mais des fois, c'est dur de se retenir. Hein. Quand vous êtes coureur cycliste, vous êtes à bloc dans un col, il y en a un qui court à côté du
coup. Tu vous proposes une pizza, comme on a vu pour quoi.
Ben. Pizza a proposé à Ben O'Connor, c'était génial.
Ouais, mais ça, c'est rigolo.
Ah ouais, ça va être très rigolo.
C'est rigolo.
Ce qui aurait été sympa, c'est qu'il prenne une part.
Ouais. Alors, je pense que là, il avait plutôt besoin que ça sorte que de faire rentrer quelque chose dans son estomac. À mon avis, comme il venait de se garer, il devait plutôt être à bloc.
Alors, l'étape de demain, on finit la montagne. Enfin, momentanément, on escaladera les Vosges. Samedi, avant-dernière étape du Tour de France, demain. Donc, c'est pour les sprinteurs, Philipsen.
On va voir ça. La 18e étape, direction Bourg-en-Bresse, 185 km, justement. Tu le disais, on devrait voir le retour des sprinteurs, ou du moins ceux qui ont réussi à passer les Alpes, ce qui ne sera pas le cas de Phil Baos, qui a dû abandonner aujourd'hui. Une étape avec très peu de difficultés. Hein. Deux petites bosses de 4e catégorie avant d'arriver à Bourg-en-Bresse, où les grosses cuisses pourront s'expliquer au bout d'une ligne droite de 750 mètres. Ça fera plaisir à Cyril. Pas de virage, 750
mètres. Pas de virage,
mètres, tout droit. Alors, Philipsen pour une 5e victoire, Pedersen pour doubler la mise, ou peut-être Wout van Aert pour une première victoire.
Le coq à Bourg-en-Bresse.
Excellent.
Avant d'aller manger excellent. Un bon poulet bressant demain soir au cas.
Et nous, on ira au cas. Voilà, on prendra une petite cuisse au coq.
C'est l'anniversaire de Bruno. En plus, on a des
choses à faire.
Bah, il est invité, je crois.
La production invite demain.
Ah oui, le producteur nous invite. Très bien, les paris, tout de suite. On y arrive.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Bredov qui nous rejoint. Salut Johan.
Salut Christophe, salut à tous.
Ah, je suis content.
Il attend ce moment depuis deux heures de temps. Purée.
Je suis euphorique parce que un peu à l'image de Vingegaard, je pense avoir gagné le tour.
Non, pas du tout.
Non.
Sur Bilbao hier.
Parce que dans les paris, ça peut vite changer. Attention, c'est pas
oui,
sur
encore,
le vélo.
Encore changer,
il y en a un qui
encore. Encore faut-il trouver une cote comme ça, quoi. C'est pas Pierre-Yves Leroux qui nous donne Vingegaard et Philipsen ses seules victoires d'étape. Hein.
Non, attendez.
Attendez. Bien meilleur.
Merci.
On rappelle.
Je t'ai donné un petit tuyau quand même.
Exactement, mais je t'inviterai à boire une verveine ce soir. Johan, pour le classement. Donc,
forcément, si t'en parles comme ça, c'est que t'es en tête. Quand t'as 25 de passé pour toi, et t'es à 92 euros de gain sur l'ensemble du Tour de France.
Je suis en positif, incroyable.
Ah, t'es le seul en positif. Ouais. Et le deuxième, c'est Pierre-Yves à moins 137 euros. Donc,
la rouste.
Ouais, voilà. Forcément.
Vingegaard à côté, c'est un petit monsieur par rapport à moi dans les paris, les gars.
C'est incroyable.
C'est terrible. C'est
un
terrible.
Retournement de situation.
Bon, je crois que je vais arrêter de parier jusqu'à la fin. Je vais empocher mes gains, 92 euros.
On sait à quoi bien. Tu marches, toi, mais.
Et non, tu vas parier quand même sur cette étape. Je regarde un petit peu les favoris selon notre partenaire. Ça me paraît être une étape très compliquée. Hein. Ça va être très difficile de pronostiquer.
Alors, Philipsen ou
il y a un favori, Jasper Philipsen, côté à 8. Et ensuite, alors, on n'a que des baroudeurs avec Anthony Delaplace, côté à 10. Abrahamsen, côté à 10. Laurent Pichon, à 10 également. Valentin Ferron. Mathis Louvel, Anthony Turgis, ces hommes sont à 15. On a Brian Cocard, Mats Pedersen pour retrouver les sprinteurs côté à 15 également. Mais on a énormément de coureurs avec peu ou prou les mêmes cotes. Messieurs, faites vos choix et c'est à Cyril évidemment de commencer.
À qui de parler, Cyril?
Eh bien, écoutez, sous la torture de votre dictature, je vais prendre Van der Poel.
Van der Poel.
Et côté à 25. C'est Van Aert qui est côté à 25, j'ai confondu. Je regarde si Van der Poel est proposé, je suis même pas sûr que Mathieu Van der Poel soit encore proposé.
Il est toujours sur le tour, on l'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est ça. Non, il est pas encore proposé, je te donnerai la cote.
Si, aujourd'hui, il pète que dans l'avant-dernier col.
Jérôme, à toi. Arnaud n'est pas là, mais Jérôme, à toi.
Eh ben, Arnaud va pas être content parce que je vais prendre Wout van Aert, moi.
Et ben voilà, côté à 25, Wout van Aert.
Et là, je vais refaire mon retard, Christophe. Cote à 25.
Wout van Aert à 25. Hey, c'est pas mal,
c'est
hein,
pas fini.
Ouais, bien sûr, t'as
c'est
raison.
C'est pas fini.
Il est à 25.
Tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, Christophe, c'est pas fini. Fanfaronne pas trop.
Ouais. Van Aert.
Mais les bookmakers ont l'air de penser à une échappée demain.
Ouais, c'est ça, exactement. Et moi aussi, je pensais à une échappée. Je vais jouer Fred Wright, qui est coté à 20. Pierre-Yves, à toi.
Eh bien, moi, je vais rester. Exactement.
Tu le savais.
Parce qu'il sera dans l'échappée.
Je lis en toi comme.
Parce qu'il sera dans l'échappée, Ryan Cocard, et demain, il s'impose.
Et tiens, est-ce qu'il ne pourrait pas s'échapper à Saint-Jean-de-Chevelu? C'est un bon village pour toi, ça.
Oui, c'est vrai.
Saint-Jean-de-Chevelu.
C'est vrai.
Au kilomètre 104.
Chauffe qu'il peut. Il
est en train de. C'est le Grand Prix des Chauves, quoi.
Christophe, c'est quoi la cote de Ryan Cocard?
C'est 15.
Ah, ben voilà.
Très bien. C'est pas mal.
Ensuite, toi, tu vas voter Philipsen, Johan?
Non, j'ai dit Fred Wright.
T'as dit Fred Wright. Ok, donc c'est à qui?
C'est à toi.
C'est pas Arnaud?
Bah non, Arnaud,
c'est toi. Personne. De toute façon, tu peux donner un nom comme tu vas changer demain. Il y a pas de souci.
Non, je vais donner Philipsen.
Oui, personne l'a pris. Personne l'a pris. Le problème, c'est qu'en jouant petit comme ça.
Oui, j'ai tellement d'avance, mon pauvre.
Mais attends, 25. Van Aert à 25.
Mais c'est bizarre.
C'est des cotes énormes.
Très étonné. Je l'aurais donné si ça n'avait pas été.
Il faudrait quand même que vous sachiez une chose, c'est que dans une équipe, il y a un corps, il y a un état d'esprit. Et Van Der Poel ayant emmené tous les sprints victorieux de Philipsen, demain Philipsen va lui emmener le sprint et Van Der Poel va gagner.
Ouais. Et Mats Pedersen qui marchait très bien là, oui, une petite
moi
cote.
Moi aussi j'aurais bien misé
côté à 15. Mats Pedersen.
Ah ouais, c'est gros. Moi je le donnerai demain, tiens, Mats Pedersen. Merci messieurs, merci, à demain.
Bonne soirée.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.